en centrant chacun notre propos sur un thème, inconscient et discours pour moi, existant de l'inconscient pour Elisabeth. Vais, pour ne pas trop allonger la sauce. Alors, les liens qui restent pour nous en activité, tel est le titre qui a été choisi pour situer cette partie de la réponse de Lacan à la première question de la partie 3 de télévision, qui a elle-même pour titre celui de l'éditeur, Être un saint. Alors, si j'insiste sur ces détails, c'est pour rappeler que, comme dans sa radiophonie,
Micro.
1970, Lacan, ici, dans la télévision, répond à des questions, soit qui s'apparentent pour nous à une demande de savoir.
Sidi, je t'interromps parce que parfois ton micro coupe.
Ah.
Peut-être qu'il faut le rapprocher un petit peu plus.
Ah, j'ai acheté un micro spécial pour pouvoir me faire entendre. Est-ce que ça marche maintenant?
Peut-être oriente-le un peu plus vers ta bouche.
Non.
Oui, ça marchait bien, mais des fois, il coupait.
Est-ce que tu m'entends mieux?
Là, ça fonctionne bien, oui.
Et pour ce qui concerne Elisabeth, ta mère et moi, cette question qu'il vaut la peine de rappeler est la suivante. Je cite, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres ou les travailleurs de la santé mentale, c'est à la base, à la dure, qu'ils se coltinent toute la misère du monde et l'analyste pendant ce temps. Donc ça, c'est l'énoncé de la question posée à Lacan. C'est donc par rapport à cette question que se structure la réponse de Lacan, réponse dont on peut souligner d'ores et déjà qu'elle est triple, qu'elle est à triple, voire à quadruple détente. En effet, cette réponse de Lacan comporte ce que j'appellerais la réponse directe à la question qui lui est posée par Miller, suivie de ce qu'il appelle une interpolation qui débouche elle-même sur une parenthèse et enfin une sorte de conclusion. Ce que j'appellerais une réponse en chicane. Malgré tout, je dirais que cette réponse, quelle soit-elle, présente néanmoins une profonde unité. En effet, elle s'ordonne tout entière autour d'une catégorie, celle du discours, c'est-à-dire la catégorie que Lacan a introduite dans son enseignement en 1969-1970, dans L'envers de la psychanalyse et dans Radio-Fou. Alors, pour mon intervention de ce soir, j'avais annoncé comme titre de ma contribution Inconscient et discours. Ce qui devait me conduire à m'attacher essentiellement à déchiffrer plutôt les parties 2, 3 de la réponse de Lacan. Mais Elisabeth a annoncé qu'elle traiterait de l'existence de l'inconscient m'a fait mesurer que nous risquions de laisser en rade des parties substantielles, notamment toute la première partie qui, à y bien réfléchir, est loin d'être sans intérêt, ne serait-ce que parce que cette partie mobilise justement d'emblée cette catégorie les discours du maître, mais aussi la question de la politique, les phénomènes de protestation et de dénonciation, etc. Renonçant à faire l'impasse sur cette première partie, si abondamment commentée pourtant, je vais m'y arrêter un instant dans ce qui va constituer mon premier développement. Et ce pour relever que Lacan y répond d'abord sinon à la provocation ou à l'impertinence de son intervieweur, en tout cas à l'interpellation, voire à la mise en cause de l'analyste que comportait cette question. Chacun l'aura remarqué en relisant ce passage. Lacan n'y récuse point en effet que les psychos soient tout à la fois les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, tous les travailleurs de la santé mentale se coltinent la misère du monde. Je dirais que sa position, la position de Lacan, n'est au fond ni agressive ni défensive. Il se contente juste, pour ainsi dire, de relever quelque chose qui était inaperçu à lui, à savoir que la misère que les psychos se coltinent n'est ni un fait de nature, ni un phénomène accidentel. C'est une réalité, sans doute, mais au sens où, dit Lacan encore, il n'y a pas de réalité prédiscursive. Aussi, on peut dire que cette misère, c'est un discours qui le conditionne et pas n'importe quoi. J'y reviendrai. Pour autant, Lacan ne s'arrête pas là, dans la mesure où il considère que se coltiner toute la misère du monde, c'est participer au discours qui cette misère la conditionne, même au titre. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que protester, ce n'est pas se situer dans le dehors d'un discours. Ce n'est pas lui opposer une autre raison. C'est y occuper une certaine place. Cette thèse, à la fois forte, originale, quoique surprenante, Lacan la considère comme pouvant être retournée contre lui, c'est-à-dire contre sa personne, mais aussi contre les discours. En effet, dans les suites de l'émoi de mai, il était plus que probable qu'une telle interprétation de la protestation engendrée contre la misère engendrée par le capitalisme, puisse être considérée comme une réprobation de la politique par celui qui l'énonce. On sait que c'est un procès constamment instruit contre la psychanalyse et les psychanalystes. C'est leur prétendu, voire pire, leur hostilité à la politique. Il faut convenir que ce n'était pas toujours immérité. Qu'on se souvienne du tristement fameux univers contestationnaire où les nouveaux chrétiens d'André Stéphane, pseudonyme qui cachait en réalité deux figures importantes de l'Institut psychanalytique de Paris, Jean et Evelyne Castambert. Le plus drôle dans l'affaire, si je puis dire, que c'est le même Jean Castambert, pardon, qui fut l'un des signataires de l'article de la Nouvelle Critique de 1949, La psychanalyse, une idéologie réactionnaire. Je dirais que Lacan saisit cette opportunité pour affirmer une position. Position malheureusement peu soulignée.
Sidi, tu m'entends?
Oui.
Oui, il y a une petite difficulté avec ton micro. Des fois, tout à l'heure, ça a bien fonctionné, mais maintenant, ça continue, ça reprend les.
Ça fait les coupures encore.
Ouais. Hein? Il nous manque des bouts.
Il y a des bouts de phrases. Ah, je ne sais pas comment y pallier, franchement. Comment on peut faire?
Non, je pense que c'est la sensibilité de son micro qui font qui ici. Non, non, c'est sûr.
Qu'est-ce qui se dit?
On est en train d'élaborer
Des stratégies, des
des
tactiques.
hypothèses sur ce qui fait le micro, mais je pense que ton micro est quand même très loin de ta
De ma
bouche.
bouche. Je peux poursuivre ou on arrête là?
sais pas.
Allez, écoute.
Là, tu ne... Vas-y, reprends, va voir ce que ça donne.
Je dirais que Lacan, c'est bon? Je dirais que Lacan saisit cette opportunité pour affirmer une position. Position malheureusement peu soulignée et reprise, qui affirme l'exclusion pour quiconque, psychanalyste ou pas, de réprouver la politique. On entend là, d'une certaine manière, ce que Lacan n'a jamais cessé de soutenir, soit le caractère fondamental pour le lien social de la politique. Pour ainsi dire, la politique, aux yeux de Lacan, c'est quand même le plus essentiel. Et il ira même jusqu'à dire, dans ses entretiens dans les universités nord-américaines, que les autres modes de liens sociaux ne sont venus s'y surajouter que par après. Alors, sans réprouver la politique, donc, Lacan se refuse à rapporter la misère que les psychos se coltinent au seul discours capitaliste. C'est même en cela, semble-t-il, une autre voie pour le psychanalyste. Voie qui n'est pas de dénonciation. Avec le risque, voire la certitude, de le renforcer, donc, je le cite, de le normer, soit de le perfectionner. On aura reconnu ici le pas de côté que Lacan fait par rapport à Marx, plusieurs fois commenté. Ce n'est bien évidemment pas le Marx inventeur du symptôme, c'est ici, qui est ici mis en question, mais celui qui, en mettant au jour la plus-value, n'a pas seulement dégagé la cause du désir du capitaliste, mais celle du manque à jouir de tous les assujettis capitalistes, prolétaires compris. À question politique, voire polémique, réponse politique. À ceci près que pour la réponse, il s'agissait de la politique d'un autre discours, l'analytique, versus politique du maître. Façon élégante, s'il en est, de renvoyer la cause du peuple, ou plutôt la gauche prolétarienne, à ses chères études. Alors, sur ce motif également, on peut dire que Lacan n'en reste pas là, puisqu'il risque ce qu'il appelle lui-même une interpolation. M'amène donc au deuxième mouvement, deuxième développement de mon propos, soit le fait d'introduire dans un texte, l'interpolation, c'est le fait d'introduire dans un texte, par erreur, par fraude ou par calcul, un passage qui n'appartient pas à l'origine. Et il faut bien reconnaître que c'est presque comme un cheveu sur la soupe que va surgir au décours de cette interpolation, ce qui va constituer pourtant, en tout cas à mes yeux, et le sort que va lui faire Elisabeth tout à l'heure en atteste, l'une des thèses centrales de cette réponse. Alors, cette thèse, il convient de l'énoncer textuellement, de ce qu'elle ne souffre nulle paraphrase. Donc, je cite Lacan. Je ne fonde pas cette idée de discours sur l'existence de l'inconscient. Je ne fonde pas cette idée sur l'existence de l'inconscient. C'est l'inconscient que j'en situe, de n'exister pas un discours. Thèse solide, robuste, mais aussi assez retorse, Et donc, je dois dire que jusqu'à ce jour, j'avais lu à la seule lumière de la malédiction inscrite dans la marche. Autant dire que je l'ai lu d'une certaine manière, en aveugle, en me faisant tenir la main. Je rappelle cette indication, hein, donc, la malédiction. Ce n'est qu'au discours analytique qu'existe, pardon, l'inconscient comme freudien. Auparavant, on écoutait, mais comme autre chose. Page 28 de télévision, l'édition. À relire cette réponse de la partie 3 de télévision, je me suis dit que quelque chose clochait. Plusieurs points en réalité. Mais pour cela, il m'a bien fallu surmonter, si j'ose dire, l'inhibition que ne manque pas de produire l'exergue de Lacan, celui qui m'interroge sait aussi bien me lire. La question qui m'a guidé est la suivante. Comment s'opère le passage de l'idée de discours en tant qu'il est ce qui permet de situer, donc de placer en un lieu l'inconscient, à la thèse selon laquelle, pardon, un seul des discours, il est quatre, le deuxième point qui m'a mis la puce à l'oreille, si je vous le dis, c'est l'insistance mise dans cette malédiction à ajouter au terme d'inconscient la qualification de Freud. Et du coup, à fonder son existence sur le fait que cet inconscient, on l'écoute. Le troisième point tient au fait qu'à mes yeux, il y a une tension, pour ne pas dire une contradiction, entre cette notion d'exclusivité de l'inconscient, le discours analytique, et les déclinaisons des différents modes existants de l'inconscient que Lacan propose dans la suite de la réponse. En effet, que fait Lacan sinon établir les modes d'existence de l'inconscient dans les différents discours dont aucun ne saurait ignorer le fait de l'inconscient, ne serait-ce qu'en raison de la fonction déterminante en chacun de la place de l'activité et des différents termes qui peuvent venir la symboliser. Essaim, savoir, symptôme, désir. C'est ici que Lacan déploie toute la finesse de son dispositif. Et qui distingue-t-il? Grosso modo, trois formes. Celle du discours de l'hystérie, celle du discours de l'analyste et celle des deux autres qui restent, c'est-à-dire le discours et le discours de. Sans doute, Lacan accorde-t-il un certain privilège au discours de l'hystérie. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit, je dirais, à pousser un petit peu loin le bouchon dans l'argument que j'ai rédigé pour annoncer mon exposé de ce soir. Il fallait prendre radicalement le contre-pied de la thèse selon laquelle l'inconscient n'existerait qu'au seul, thèse qui me paraît problématique, en ce qu'elle réduirait l'inconscient au seul inconscient. Alors, ce que j'appelle le privilège accordé au discours de l'hystérie, dans la formule de Lacan, d'après laquelle, je le cite, l'inconscient en existe d'autant plus qu'à ne s'attester en clair que dans le discours de l'hystérie. Partout ailleurs, il n'y en a que bref. Et d'ajouter, oui, si étonnant que cela paraisse, même dans le discours de l'analyste, où ce qu'on en fait, il y a donc bien, comme je le proposais plus haut, au moins trois formes, trois versions de l'existence de l'inconscient. J'en viens à présent au pourquoi du privilège du discours. La référence au couple historique de Freud en tant que co-inventeur de la psychanalyse et non co-découvreur de l'inconscient, ne me paraît pas suffisant. La raison, je la situe ailleurs, très exactement dans ce que Lacan avançait le 14 janvier 1970, pardon, à propos du symptôme dans ce discours, hein, à propos du symptôme dans le discours. Je ne t'entends pas.
Attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux passer de ton micro Bluetooth au micro de ton ordinateur? Parce que vraiment, il y a des coupures qui font que
alors,
c'est dommage de perdre une partie de ton exposé.
Je vais essayer de faire ce que je peux. Est-ce que tu m'entends?
Là, c'est très bien. Mais à chaque
Très
fois,
bien.
ça commence bien et après, il y a le fading du micro.
Ah oui, mais c'est peut-être aussi le fading de ma voix, tout simplement.
Non, non, c'est le micro.
Ah bon, d'accord. Très bien. Alors, où en étais-je? Oui, donc je disais que la raison, je la situais ailleurs. Très exactement dans ce que Lacan avançait le 14 janvier 1970 à propos du symptôme dans ce discours. Voici ce que Lacan disait. C'est autour du symptôme que se situe et s'ordonne ce qu'il en est du discours de l'histoire. Ouais, page 48 de l'envers de la psychanalyse. C'est en effet dans le symptôme la division subjective qu'elle exhibe et met en scène qui occupe, hein, c'est en effet donc le symptôme qui occupe la position dominante dans le discours de l'histoire. Ainsi, ce que Lacan va radicaliser avec son existence de l'inconscient, qui est d'une certaine manière une anticipation par certains côtés de l'inconscient réel, que nous connaissons bien dans notre école, trouve déjà ici ses fondements de raison. À l'autre bout, si je puis dire, il y a le discours de l'analyste, qui se caractérise par le fait que cet inconscient qui lui existe, il en fait quoi? Il en fait culture. Non pas, bien sûr, cette culture qu'un certain structuralisme opposait jadis à la nature, ou même celle que Lacan situait dans cette dialectique subtile entre névrose, perversion et société, dans son séminaire sur le transfert, mais la culture qui va de la mise en valeur au bouillon de culture, pour ainsi dire, en tout cas la culture comme cette technique permet d'assurer en milieu artificiel l'émergence et le déchiffrement de ce qui, de structure, est l'évasif. De ce point de vue, nous ne sommes rien d'autre, nous analystes, que les jardiniers ou les laborantins. Entre les deux, l'empirique et l'analytique, Lacan place les discours du maître, de l'universitaire, où de l'inconscient, dit-il, il n'y a que greffe. Généralement, sinon toujours, on ne greffe en effet que ce qui est ex, avec le destin que l'on sait dès lors qu'on procède à une pareille opération. Ça peut prendre, mais ça peut aussi. J'en viens maintenant à la parenthèse qui suit cette remarque interpolée. Remarque interpolée de cette parenthèse est une question. Hein? Donc, une question dans la réponse. Question posée cette fois par Lacan soi-même et à laquelle il répond par l'affirmative. La question s'énonce, l'inconscient implique-t-il qu'on l'écoute? Et Lacan y répond par, à mon sens, oui. On peut être surpris de voir ici Lacan reprendre à son compte cette mystérieuse écoute dont on sait que comment il l'a lui-même moquée, sans doute en raison de sa fétichisation par une certaine frange de son école, l'école de Paris. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel réside, me semble-t-il, dans le fait que Lacan conditionne sa réponse positive à la question par la thèse de la culture de l'inconscient dans le discours. Autrement dit, l'inconscient, dans ce passage, n'implique qu'on l'écoute que s'il est mis au travail et à une place particulière, celle de la jouissance ou de l'autre, dans un discours déterminé. Et ce dernier ne saurait être n'importe lequel des quatre discours. Il ne s'agit en effet que du seul discours dont, il existe l'inconscient, qu'on l'évalue comme savoir qui ne pense, ni ne calcule, ni ne juge, ce qui ne l'empêche pas de travailler. Subtile et redoutable rhétorique, celle de Lacan, qui ne concède l'implication de l'écoute dans la détermination de l'inconscient que pour s'ouvrir une voie, celle pour mettre au jour sa lecture de l'inconscient freudien comme travailleur idéal et comme savoir sans nom. Non sans ironie, Lacan fait le lien ici avec l'histoire politique de son temps. Ce travailleur idéal, qui est l'inconscient freudien, il en fait également l'exacte figure du rêve de Marx, le travailleur idéal, entre guillemets, au sens peut-être du prolétaire émancipé de l'exploitation capitaliste, c'est-à-dire celui dont Marx a fait, je le cite, la fleur de l'économie capitaliste dans l'espoir de le voir prendre le relais du maître, ce qui est arrivé en effet, bien que sous une forme inattendue. Mais là, je dois reconnaître, l'allusion de Lacan me demeure opaque. Parlait-il de ce qui s'est passé en URSS, en Chine, à Cuba, d'autres démocraties ou tout simplement, du discours capitaliste qui généralise le symptôme social, universalise et homogénéise le manque à jouir en faisant de tout par l'être un problème. Quoi qu'il en soit, Lacan termine sa réponse par une formule qui atteste, selon moi, de l'importance de l'inconscient dans tous les discours qui font le lien social. Je le cite, il y a des surprises dans ces affaires. C'est même là le fait de l'inconscient. Pour terminer maintenant, et en espérant ne pas avoir été trop long, je propose d'examiner à présent ce que Lacan avance à propos du discours de l'analyste et de ce qui a donné le titre de notre soirée, des liens qui restent pour nous. À ma connaissance, Lacan n'a jamais donné de définition aussi limpide et aussi précise de ce qu'il a nommé discours de l'analyste. Je le cite, le discours, je dis analytique, c'est le lien social déterminé par la pratique analytique. Lacan, on le voit ici, ne prend son départ ni dans un savoir, théorie, et encore moins dans une technique thérapeutique ou pas. Il choisit comme point de départ une pratique, celle de l'analyse, mais qu'il n'envisage plus, pardon, comme il a pu le faire jadis, en 1936 par exemple, dans La science et la vérité, texte dans lequel il situait la psychanalyse en tant que pratique, rapport à d'autres pratiques, la magie, la religion et la science. Non, ce qui l'intéresse ici, ce n'est pas tant la pratique dans son opération et sa pragmatique, son efficience, que le lien social qu'elle détermine et qui, à son tour, la conditionne. Pour que ce lien social puisse se constituer, s'instituer et subsister le temps nécessaire pour la cure, voire pour l'expédient, il faut non seulement les places, ici celle de l'analyste et celle de l'analysant, mais aussi des sujets pour occuper ses places et supporter, saturer ses fonctions. Autant dire, en l'occurrence, on ne sait pas ici, que l'existence et la survie de ce discours, de lien social, sont totalement dépendantes du fait qu'il y ait de l'analyste. Ce que Lacan dit, en revanche, c'est que ce discours de l'analyste, ce discours analytique, vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous à l'activité. Ce discours analytique vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous. Alors, rien que ce bout de phrase, hein, les liens qui restent pour nous, soulève des questions redoutables d'introduire dans ce que nous avons pris le pli d'aborder avec et par la structure alémanienne la dimension de l'histoire et peut-être plus de car peu on est fondé question de ce que recouvre ce nous dans les liens qui restent pour nous en activité. Bref, même à supposer que l'on puisse ramener aux quatre discours radicaux les liens sociaux fondamentaux, qui peut dire quels liens sociaux, jadis en activité, ont disparu? Quels liens sociaux actuels dépérissent, sont en déclin et finiront par disparaître? Quels liens sociaux nouveaux émergent et sont en passe de se à ceux qui nous ont assujettis et ou dans lesquels nous nous sommes subjectifs. Je vous remercie de votre attention.
Je peux enlever mon masque pour parler. Comme tu veux.
Je reste.
En face.
Oui, parce que c'est très désagréable. Oui. Merci, Sidi.
Merci à
Bonjour à
vous.
tous.
Entends.
C'était un peu dur, hein, parce que
Oui, c'est ça que j'ai compris. Bon, je suis
oui,
désolé.
ça, c'était très haché. On est
Ouais.
censé faire une soirée jazzy, hein, donc.
Ah, là, ça ne va même pas être samba ou salsa, hein.
Ouais. Oui, c'est curieux parce que c'était les fins de phrases qui étaient. Voilà, on n'entendait pas. Alors, je te remercie surtout, Sidi, parce que j'avais fait un pari qui, Sidi, allait commenter les textes en bon exégète, comme ça, bon, à chaque virgule. Et heureusement, ce n'était pas raté mon calcul. C'était pas exactement un calcul, c'est que moi, par rapport à ces passages, je suis butée sur un morceau de ces passages. Et les séminaires écoles de cette année, comme l'a déjà annoncé Radou Issidi, sera consacré aux questions 3 et 5 des télévisions. Ces textes, comme tous les textes du début des années 70, présuppose des changements très importants dans l'enseignement de Lacan. La redéfinition de l'inconscient comme réel, des remaniements quant à la nature du signifiant, la jouissance, l'introduction de la langue. Ils sont quelques-uns des changements qui nous amènent à repenser la portée et la visée du discours analytique, soit de ce qu'une analyse peut obtenir. Il n'est pas aisé de commenter ces textes, car Lacan garde souvent dans les textes de cette période les mêmes termes ou expressions, je me suis perdu, les mêmes termes ou expressions pour dire des choses assez différentes. C'est le cas de télévision aussi dans ces passages qui nous occupent ce soir, notamment lorsqu'il s'agit d'examiner le rapport de l'inconscient au discours. Tout spécialement au discours analytique, qui est le point qui a retenu le plus mon attention pour aujourd'hui. Donc, c'est dans cette interpolation, cette remarque que Lacan interpole, et, comme l'a bien souligné Sidi, qui est en rupture avec ce qu'il a développé avant, qu'il dit la phrase suivante. Je ne fonde pas cette idée de discours sur l'existence de l'inconscient. C'est l'inconscient que j'en situe de n'exister qu'à un discours. Une question s'impose dans ces phrases très denses. Qu'est-ce que exister? Exister, que vous le savez, Lacan écrit avec une orthographe particulière, séparant le ex de cister. Je dois vous avouer que je pensais que l'usage de ces termes et de cette écriture était tardif chez Lacan. Et je me suis vraiment trompée. Ils sont présents tout au long de son enseignement, dès 1956, dans le séminaire sur la lettre volée, il est orthographié de la même façon, pour désigner la place excentrique où il faut situer les sujets de l'inconscient. Il apparaît aussi dans la direction de la cure, pour parler du désir masqué dans la signifiance du rêve, puis pour sauter, il y a l'existence du dire dans l'étourdi, pour ne mentionner donc que quelques occurrences. Dans les dictionnaires, le verbe « exister » en un seul mot, et pour faire bref, signifie « ce qui possède une réalité ». Il dit que quelque chose est. Le verbe « exister » provient du latin et son radical « existere », justement ce que Lacan met après les tirets. Ça veut dire être placé. En orthographiant de cette façon, Lacan va accentuer justement cette notion de place qui est essentielle dans la notion de discours. Affirmer l'existence de l'inconscient indique qu'il les situe hors du discours, qu'il a son site, sistere, hors. Il est à remarquer pourtant que c'est dehors de l'existence, c'est ex, comme le dit Lacan, dans la leçon du 14 janvier 1975 dans RSI, c'est un dehors qui n'est pas un non-dedans. Il s'agit de topologie, là, bien sûr, mais il ne s'agit pas, me semble-t-il, dans l'existence, d'une extériorité absolue qui n'aurait rien à voir avec ce qui s'y passe, en l'occurrence pour nous aujourd'hui, dans le discours analytique. Toute la complexité de cette affirmation réside pour moi dans la façon de comprendre cette existence de l'inconscient dans la pratique analytique. Car Lacan l'affirme, il n'existe qu'au discours analytique. Étrange affirmation, car l'on pourrait penser justement le contraire, c'est-à-dire que l'inconscient n'existe dans un seul mot que dans ces discours dans lesquels il est interprété. Cette affirmation, dont il serait souhaitable qu'on arrive à saisir la portée, condense à mon avis à elle seule certains des remaniements successifs que Lacan a introduits. Je pense spécialement au texte élaboré dans ce laps de temps que je situerai entre 72 et 74, période où nous avons les séminaires encore, l'étourdi, télévision, les comptes rendus du séminaire ou pire, et l'introduction à l'édition allemande des écrits. C'est une période particulièrement dense de son enseignement, et j'ai l'impression que ces textes dialoguent entre eux, qui s'éclairent, parfois, ils s'y complexifient les uns les autres. Je pense que ces passages de télévision, par exemple, est un dialogue direct avec les comptes rendus du séminaire ou pire. Lacan affirme, dans la suite du texte, que l'inconscient est écouté et évalué, drôle d'expression évalué, comme savoir dans les discours analytiques. Je m'arrête pour l'instant à cette notion d'inconscient comme savoir. Comment sait-on que l'inconscient est un savoir? Parce qu'il s'y déchiffre, C'est le béaba de ce que l'on apprend de la psychanalyse. Cependant, cela semble plus difficile à saisir à partir du moment où Lacan définit l'inconscient comme savoir sans sujet. C'est un savoir dont le sujet est exclu, en partie en raison de la structure même du langage telle qu'elle a été formulée par Lacan, car le sujet, toujours entre deux signifiants, aucun S1 ne peut représenter de facto les sujets, sinon pour d'autres signifiants, que Lacan écrit S2. Avec la définition de l'inconscient comme savoir sans sujet, Lacan pointe les limites inhérentes au déchiffrage par la voie du sens et de la quête de la vérité, soit de la structure du langage, S1, S2. L'expérience analytique nous démontre que les signifiants, que l'analysant parvient à déchiffrer comme des signifiants qui condensent sa jouissance dans les symptômes, demeurent radicalement séparés les uns des autres. Il n'y a que de l'un et de l'un tout seul. Pourrions-nous dire donc que le fait que l'analyse, du fait que la psychanalyse ne produise que de l'un, que ça serait celle-là qui prouverait et déterminerait l'existence de l'inconscient? Parallèlement à l'affirmation de l'existence de l'inconscient, Lacan nous dit qu'il est évalué comme savoir. De quel savoir il est question ici? Nous savons depuis les séminaires encore que Lacan fait la distinction entre deux savoirs. En tout cas, ça, il nous indique ça. Un savoir déchiffré dans les langages et un savoir issu de la langue qui va bien au-delà de tout ce que l'on peut articuler en termes de langage. Est-ce que les savoirs dont il est question dans ces paragraphes est l'un de ces deux en particulier ou les deux à la fois? Si nous faisons dialoguer ces textes avec les comptes rendus du séminaire ou pire, nous pouvons percevoir qu'il ne s'agit pas de l'un ou de l'autre, mais qui, en quelque sorte, s'y limitent l'un l'autre. Dans télévision, ainsi que dans les comptes rendus, Lacan définit presque le savoir dans les mêmes termes, l'inconscient travailleur. Dans télévision, il dit qu'il est ce qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge, comme dans les rêves, par exemple. Dans les comptes rendus, il dit presque mot à mot, il est donc vrai que le travail du rêve, entre autres, s'y passe de penser, de calculer, voire de juger. Il sait ce qu'il a à faire. Il suppose un sujet qu'il met entre guillemets, c'est-à-dire Arbeit. L'inconscient travailleur travaille au chiffrage. Vous voyez que ce sont presque exactement les mêmes termes, sauf que dans les comptes rendus, Lacan ajoute les chaînons manquants. C'est, je les cite, « Ceux qui pensent, calculent et jugent, dit-il, c'est la jouissance. » Et la jouissance, étant de l'autre, exige que l'une, celle qui du sujet fait fonction, soit simplement castrée. Le savoir inconscient, donc, qui est évalué dans les discours analytiques, n'est pas univoque, me semble-t-il. Il y a même une disparité entre deux sortes de savoir. D'un côté, il y a le déchiffrage de l'inconscient vérité, que nous connaissons mieux, mais qui ne permet pas de conclure. D'où l'expression de Lacan, mirage de la vérité. Mais l'acte de déchiffrage implique que qu'on prélève non seulement des S1 qui sont empruntés à l'autre du discours, mais aussi qu'on prélève des signifiants qui règlent la jouissance du sujet dans son symptôme, et ces S1 que l'analyse produit ne sont absolument pas réduits par le déchiffrage. Un savoir de la langue, un S2 devient ainsi à son tour un S1 reconnu comme maître de sa jouissance. C'est une expression que Colette utilise dans son livre Lacan, l'inconscient réinventé. Il y a là, selon Colette, donc, un changement du statut du signifiant maître. Si les discours analytiques programment dans son dispositif qu'il va toucher au réel, ce n'est pas seulement par les négativités de la structure langagière, mais parce qu'il n'est produit, la place de la production, que des S1 qui peuvent, à la limite, faire série, mais qui ne se totalisent pas. Totaliser est aussi un terme utilisé par Lacan dans les comptes rendus du séminaire au pire. Cet 1 se répète, mais ne se totalise pas dans cette répétition. Ce qui s'y saisit dans une analyse, dit-il, ce sont des riens des sens, faits de non-sens, à reconnaître dans ses rêves les lapsus, voire les mots du sujet, pour qu'il s'avise que cet inconscient est le sien. Sien comme savoir, il est savoir comme tel affect. La lecture que j'ai faite donc, pour l'instant de cette phrase que je commente, c'est que l'inconscient existe au discours analytique tout au long de l'analyse. Si l'on croit à la description que fait Lacan du dispositif freudien comme association libre, dont le réel touche au réel. Cette description nous dit qu'il y a du réel dans les deux étages du discours analytique qu'a formulé Lacan. À l'étage supérieur, l'objet à la place du semblant cause l'édit de l'analysant sans que pour autant celui-ci puisse lui-même dire l'objet. C'est l'un des réels qui les procédés analytiques met en jeu. Les réels touchés par l'analyse se situent dans l'étage inférieur du matème. Il écrit l'impossibilité de copulation des S1 avec les S2 du savoir. L'inconscient, la langue, reste un savoir imprenable par les déchiffrages analytiques. On n'attend que des bribes. Est-ce là encore l'une des raisons de l'existence de l'inconscient? Après avoir affirmé que l'existence de l'inconscient au discours analytique, Lacan dit qu'il ne s'atteste en clair que dans les discours de l'hystérique, il ajoute « Partout ailleurs, il n'y en a que greffe. » Oui, si étonnant que cela paraisse, même dans les discours de l'analyste, ou ceux qui en ont fait, ces cultures. Comment entendre cette référence à la greffe? En consultant un peu le dictionnaire, j'ai constaté que greffe, c'est un terme qui a été d'abord employé dans le domaine de l'horticulture et presque un siècle plus tard, par analogie, il s'est étendu au domaine chirurgical. L'élitré nous dit que greffer, c'est l'opération par laquelle on hante, c'est un mot que j'ai c'est ENT, on hante sur un arbre une petite branche, un œil emprunté à un autre arbre afin que la fleur ou les fruits de celui-ci soient portés par celui-là. Greffer est donc implanter, ajouter quelque chose qui n'était pas au départ. Petite parenthèse, greffe a sa racine dans les Grecs, graphène, la graphie, c'est-à-dire l'écriture. Comment entendre le fait que l'inconscient ne s'atteste en clair que dans les discours de l'hystérique? Cela semble saisissable d'emblée parce que le savoir se situe à la place de la production, comme le démontre son mathème. Que l'inconscient soit attesté dans les discours explique probablement pourquoi Freud a pu construire, bâtir la psychanalyse à partir de sa rencontre avec les hystériques. Si nous suivons la métaphore de la greffe, on peut se demander aussi si c'est justement au discours hystérique que les discours analytiques prélèvent la bouture dont il va faire la culture. Non seulement dans l'histoire de la psychanalyse elle-même, mais aussi parce que l'entrée dans les dispositifs analytiques présuppose l'hystérisation du sujet, soit que l'inconscient s'atteste. Mais l'attester en clair ne signifie pas l'analyser. Pour l'analyser, il faut que l'inconscient attesté en clair dans l'association libre hystérisée soit greffé au discours analytique, qui, rappelons-le, est un artifice fondé sur la supposition du savoir transférentiel engendré par la parole articulée et sa quête de savoir. C'est donc de la responsabilité de l'analyste d'y greffer l'hypothèse de l'inconscient comme savoir à la place de la vérité. Pour cela, il faut que l'interprétation de l'analyste ou son acte vienne à décompléter l'automaton de la chaîne associative où l'inconscient n'est fait qu'à s'attester en clair sans être analysé. On cultive ensuite l'inconscient dans la cure. On y met de l'engrais, mais il faut surtout que l'analyste ne perde pas de vue l'existence structurelle de l'inconscient s'il ne veut pas entretenir ad infinitum son analysant dans les voies du sens et de la vérité dont seule l'impuissance est à espérer. Il s'agirait plutôt d'amener l'analysant à prendre acte lui aussi de cette existence dont il pourrait plutôt se satisfaire à la fin. Voilà ce que j'avais, que j'ai pu extraire de ce texte qui est très, très difficile, je trouve. Alors, c'est dit, comment on s'anime là? Ah, Patrick, comment je donne le micro, Sidi? Sidi, tu peux allumer ton micro toi-même? On ne t'entend pas.
Il n'a pas son micro, effectivement, il n'est pas allumé.
Voilà, c'est bon maintenant. C'est toi qui pouvais l'activer. Bien, donc merci d'abord, Elisabeth, pour ton exposé qui pose les...
Il y a une petite partie du passage.
Hein. Des questions tout à fait essentielles. Alors, c'est très difficile comme ça à distance, et surtout si vous ne m'entendez pas.
Ah, ça va.
Ça va? Alors, donc, on peut essayer de se renvoyer nos questions, peut-être, et puis ensuite nous adresser à la salle. J'ai retenu de ton intervention l'insistance que tu as mise hein, sur la question de l'existence de l'inconscient dans le discours psychanalytique. A été un des points sur lesquels, justement, j'ai essayé d'interroger, non pas simplement l'existence de l'inconscient dans le discours psychanalytique, mais l'idée que l'inconscient n'existerait qu'au seul discours psychanalytique. Alors, j'aimerais savoir comment toi, tu as entendu cette question de l'existence de l'inconscient, puis je te dirais comment je l'ai perçue. Dans quelle suite, au fond, de oui. position de Lacan, j'inscris cette notion d'existence de l'inconscient.
Oui, c'est une question intéressante. C'est vrai que je me suis vraiment concentrée à ce qu'il avance, dans oui. le sens qu'il n'existe qu'au discours analytique. Ça veut dire que les rapports... D'abord, la question... Où on est du discours de l'existence du discours dans les autres discours, où en est-il? Parce que si d'une part il n'existe que discours analytique,
oui, mais qu'est-ce que ça veut dire
dans
déjà?
Dans les autres, oui. Il est greffe, mm-hmm. sauf dans l'hystérique. Mmh. Ça me pose aussi question, je n'ai pas de réponse, mais pourquoi est-il greffe dans les discours du maître et dans les discours universitaires? Tu as une idée là-dessus?
Non, je n'ai pas d'idée précise, sauf que je considère que le discours du maître et le discours de l'universitaire sont des discours qui ne font pas d'usage, qui ne s'intéressent pas à la question de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à la division subjective oui. et qu'il ne s'intéresse pas à la portée et aux conséquences de l'inconscient. Donc, à chaque fois que la question de l'inconscient s'y pose, ça vient du dehors par cette opération de greffe. C'est comme ça, hein, c'est peut-être oui, oui, oui. très élémentaire, Mais c'est comme ça que
C'est comme ça que tu vois la greffe dans ces deux discours.
Voilà, c'est ça. Mais il me semble que pour tous les discours, l'inconscient, ce n'est pas quelque chose qui est interne au fonctionnement du discours. C'est-à-dire qu'il existe à chacun des discours. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas une exclusivité du discours psychanalytique.
Oui.
Ce qui est une exclusivité du discours psychanalytique, on pourrait transférer ça sur la question du transfert, par exemple. On sait que dans toute relation de parole, dans toutes les pratiques où les sujets humains travaillent ensemble avec du langage et de la parole, il y a du transfert. Mais le seul discours dans lequel il y a, au fond, une attention particulière et un traitement spécifique du transfert, c'est le discours psychanalytique. Il me semble qu'il en est de même pour ce qui concerne cette question de l'erreur. C'est pour cela qu'il insiste sur le fait que dans le discours psychanalytique, il y a une culture de l'inconscient. On le cultive, l'inconscience, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas homogène avec la
Oui,
question de l'existence.
mais peut-être que la notion d'existence est assez spécifique,
Oui,
c'est
alors
peut-être pour ça,
explique-moi en quoi.
c'est-à-dire, je vois une dimension du réel, hein, c'est-à-dire, je pense que c'est pour ça qu'il est propre, en tout cas Lacan a l'air de le limiter dans ses textes, textuellement d'ailleurs, au discours analytique, parce que c'est une forme particulièrement d'être hors. Hein?
Non,
Donc c'est une nuance par rapport aux autres où ils s'y greffent éventuellement.
mais justement, c'est peut-être là qu'il y a une divergence de lecture, parce que je crois que ce qui tire vers cette lecture, c'est davantage le petit commentaire de Miller à la marge que ce que
Oui.
Lacan énonce explicitement.
Je n'ai pas entendu si tu la fin de ta
Oui,
phrase.
je disais que ce qui tirait vers l'interprétation, qu'il n'y a que dans le discours psychanalytique que l'inconscient existerait, est davantage porté par ce que Miller met dans la marge, la malédiction, que le texte même de Miller, de Lacan.
Ah, tu sais qu'en t'écoutant tout à l'heure, j'ai
Oui.
cherché partout où était la phrase de Écoute comme un conscient freudien.
Oui.
Et je disais, mais j'ai lu, je n'y trouve pas ça. Et finalement, c'est les commentaires de Miller
Oui,
sur
absolument.
le...
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord. J'ai zappé complètement. Hein,
Ah oui,
ah
non,
ouais.
non, moi, il me semble que c'est ce qui induit cette interprétation que tu viens de rappeler. Parce que chez Lacan, l'inconscient existe toujours. Il le disait dans Position de l'inconscient, il est dans le fauteuil de l'analyste. Ensuite, il va dire, c'est entre l'autre et le sujet, la coupure en acte. Ensuite, au-delà même de la question de l'inconscient et du discours, dans le Neubourmer, il va situer l'inconscient comme quelque chose qui existe au réel, à l'imaginaire. C'est comme cela que la question de l'inconscient réel peut avoir
Oui, oui, oui.
une version topologique.
Mais j'ai mal compris ou tu es en train de dire que c'est la lecture, là, les commentaires de Miller qui m'a induit à penser ça?
Non, j'ai dit que d'une manière générale, c'est
Passerait par
ça.
les Saint-Esprits parce que j'ai même pas lu.
Ah.
J'ai même pas
Alors,
lu, vraiment.
oui, ah bon, tu ne l'as pas lu. Pourtant, c'est important dans
notre jam session, c'est ça?
le... Exactement.
Bon, oui.
Alors, peut-être
Colette
tu peux me dire si on...
a demandé la parole.
Ouais,
On va
bon,
prendre.
on passe la parole à Paulette.
Alors, eh ben je suis d'accord avec Sidi que dans ce texte, Lacan suppose présence de l'inconscient dans tous les discours. Je dis présence, qui est un terme qui n'est pas dans le texte exprès. Mais quand il dit c'est l'inconscient qui se situe de n'exister qu'à un discours, qu'est-ce qu'il ajoute? Là, je défends Miller. Qu'est-ce qu'il ajoute, Lacan, un paragraphe qui n'a pas été commenté, il lui dit, vous l'entendez si bien, c'est à lui qu'il parle, que vous annexiez une question sur l'avenir de la psychanalyse. Pas sur l'avenir du discours du maître ou du discours de l'hystérique, ou sur l'avenir de la psychanalyse. Et donc, ça veut dire qu'il avait bien en tête Lacan, que, comme il le dit plus bas, il existe au discours analytique. Et moi, je suis frappée par la précision des termes. Dans les autres, il ne dit pas qu'il existe. Il s'atteste, dans l'hystérie, il s'atteste. Il est greffé dans les autres. Hein. C'est-à-dire, quand on fait une greffe, on ne voit plus la greffe, en fait, quand l'arbre se développe. Ça veut dire que il y a une présence, mais qui n'est pas ce qu'il appelle à proprement parler l'existence. Et donc, au fond, il n'y a pas de vraie divergence, me semble-t-il, entre les positions, hein. Parce que quand il dit, il suppose qu'on l'écoute, ça devrait nous induire à nous demander comment on l'écoute dans les autres discours. Parce que s'il est présent et qu'il suppose qu'on l'écoute, comment on l'écoute ? Bon, dans les autres discours qui ne sont pas l'analytique. Et puis, il n'implique sûrement pas, sans le discours dont il existe, c'est le discours analytique, qu'on l'évalue comme un savoir qui ne pense...
Oui, non, mais
le discours dont il existe, c'est l'analytique quand même. Et c'est vrai que c'est quand même très... très important de souligner ce que tu soulignes, si dit que tu accentues, c'est qu'il n'empêche qu'il est présent dans les autres, sur des façons imprécises. Parce que si on avait l'idée qu'il n'existait que dans le discours analytique, comment arriverions-nous à convaincre ou à amener des gens d'autres discours vers le discours analytique, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'homogène. Donc c'est quand même important ce plus loin là. Mais moi j'aimerais aussi qu'on questionne la première phrase, son interpolation. Pourquoi dit-il « je ne fonde pas cette idée de discours sur l'existence de l'inconscient ». Je ne fonde pas, ça veut dire qu'on pourrait penser à le fonder, hein, ou que peut-être lui-même y a pensé, ou que certains y pensent. Et effectivement, on pourrait avoir l'idée, dans nos termes bien rodés et systématiques, vous avez déjà entendu parler de la fameuse phrase que « qu'est-ce qui se démontre ?» avec l'inconscient dans la psychanalyse, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, d'accord ? Et que nous avons l'idée que tous les discours sont des appareils de suppléance au non-rapport sexuel. Donc on pourrait du coup en conclure, bien sûr, que c'est l'inconscient coupable du non-rapport sexuel qui fonde les discours. Vous me suivez ?
Oui.
Et donc, c'est une idée qui pourrait courir et à laquelle Lacan essaye de parer. Alors, je ne sais pas quels étaient les avec qui dialoguer là-dedans, mais il essaye de parer à ça. Il inverse exactement la problématique.
Oui.
Il inverse exactement la problématique. Oui. Le discours, c'est... Bon, l'inconscient qui se situe d'exister au discours, et ce n'est pas l'inverse. Oui.
Ce qui est quand même tout à fait en accord avec le malaise dans la civilisation de Freud, me semble-t-il.
Justement, c'était ma question. Si les discours ne se fondent pas de l'inconscient, allons jusqu'au bout. Les discours ne se fondent pas de l'expérience analytique. Alors, de quoi se fondent-ils ?
Du langage, de la jouissance. Il me semble que c'est le langage et la jouissance qui fondent les discours.
C'est quand même un langage, je suis d'accord, bien sûr, mais c'est quand même un langage qui est appréhendé à partir de l'expérience analytique.
Mm-hmm. Non, mais donc, ce qui est sûr, tu as raison.
La dichotomie discours et inconscient, le clivage qu'il effectue là, c'est tout à fait précieux. Ce qu'a dit Colette est vraiment très juste là, sur cette façon d'opposer les deux, mais leur disjonction me paraît un peu forcée, non ? Il n'y a pas...
Forcée, je ne sais pas.
Je ne pense même, pas.
Le discours du maître, il s'est instauré, il a gouverné les cités grecques, il n'y avait pas le moindre soupçon de l'inconscient. Il y avait, bien entendu, il y avait des rêves, oui. que l'on interprétait, il y avait tout ce langage de signes, mais...
Dans l'hypothèse de l'inconscient.
Il n'y avait pas l'hypothèse de l'inconscient. L'hypothèse de l'inconscient, elle date de Freud. Donc, les discours ont précédé de beaucoup l'hypothèse de l'inconscient, ça c'est sûr.
C'est vrai que c'est Lacan qui les a articulés,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui.
Et c'est un autre point de ton texte. Et oui. Les discours sont historiques.
Oui, oui. Hein,
différemment de l'inconscient qui a dans les symboliques sa matière préformée, disait Lacan.
Exactement.
Certes, mais continuer à pinailler, et ce n'est pas tout à fait hors sujet, puisque c'est la question 5. Les structures sociales, la famille, la société, tout ça procède du refoulement.
Oui.
Donc, le discours du maître qui existe de toute éternité, ou presque, se fonde aussi du refoulement et de l'inconscient.
On peut l'interpréter peut-être comme ça, mais...
Non, là, j'interprète rien. Je reprends ce que dit Lacan, question 5, sur le pourquoi on joue si mal.
C'est une interprétation. Rétroactive.
C'est du refoulement que se produit la répression. Pourquoi la famille, la société elle-même ne serait-elle pas création à s'édifier du refoulement ?
Oui, c'est une interprétation rétroactive. Rétroactive, une fois que l'inconscient existe grâce au discours analytique, on peut réexaminer la famille et dire ça vient du refoulement. Quelque chose qui n'est pas nommé n'existe pas. Tant que l'inconscient n'est pas nommé, tant que l'inconscient freudien n'est pas nommé, on ne peut pas parler de son existence. On peut parler de manifestations qui rétroactivement l'évoque,
oui.
Mais on ne peut pas parler au sens propre tant qu'on n'a pas le mot.
D'ailleurs, il y a un passage de l'envers de la psychanalyse où Lacan énonce clairement que l'inconscient tient à l'institution du discours du maître. Le discours du maître, c'est une émergence historique. Elle n'a pas toujours existé. Donc, il y a quand même un lien entre discours du maître et inconscient. Il n'y a pas de l'inconscient à partir du moment où il y a du langage, du signifiant. Il faut que ça passe par le discours.
Attendez, c'est forcé, puisque quand même, l'inconscient est un effet de langage.
Oui.
Est-ce qu'on est bien tous assurés de ça, je pense?
Oui, d'accord.
D'accord, c'est un effet de langage. Donc, c'est forcé que cet effet de langage, reconnu ou pas, et plutôt pas reconnu tel comme ça avant Freud, il était déjà là. Il y avait déjà la division, la castration et tout, qui était nommé autrement, appréhendé autrement, avec d'autres termes.
Mais si ce n'est pas ordonné à partir de place, et si, je ne sais pas si on peut appeler ça discours.
Si on peut
appeler, on ça, peut appeler ça discours.
Parce que ce n'est pas ordonné.
Oui, il y a les éléments, mais il faut que les éléments soient à des places précises et dans des systèmes de relations précis pour qu'il y ait du discours. C'est pour cela qu'il me semble qu'on peut considérer que pour Lacan, il n'y a pas comment dire ça, il n'y a pas contemporanéité entre le langage et le discours. Ce n'est pas parce que
le langage et le discours.
Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a du langage qu'il y a immédiatement du discours.
Non, non, bien sûr.
Langage,
oui. Sujet, etc. D'ailleurs, si vous reprenez le séminaire de l'envers de la psychanalyse, là, oui. Il construit ses discours. Mm-hmm. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappée, c'est pour ça que je m'en souviens. Hein. Il parle du moment où le S1 vient à la place qui constitue le discours.
Oui.
Il a cette expression, le moment, donc il le marque même comme temporel historique, ouais. Le moment où le S1 vient à cette place où il commande, en fait.
Mmh. Exactement.
Oui, donc les discours ne se réduisent pas à l'effet de langage. Hein. Il y a plus. Oui.
Il y a un autre point que tu aimerais discuter ou on discute avec la salle.
La salle y est déjà.
Parce que c'est très compliqué.
La salle virtuelle. Comment on ouvre la salle?
Oui. Passer la parole au collègue.
Attends, Sidi, j'avais une question qui concerne le début de ton exposé.
Oui.
Enfin, qui est la question qui est posée à Lacan, c'est quel est le... Enfin, je ne me souviens plus des termes, mais enfin, le sens est ça. Quelle est la place que le psychanalyste peut occuper dans les sociétés, qui est celle de ne pas protester, puisque, comme il le démontre, protester, c'est renforcer le discours qu'on dénonce. Et c'est la critique qu'il fait à Marx.
Oui,
puisqu'en fin de compte, Marx, a, loin d'avoir mis fin au capitalisme, il l'a renforcé. Et ni protester, ni collaborer. Donc, il embraye sur la question du sein. Mais toi, qu'est-ce que tu nous apporterais comme réponse?
Par rapport à quoi?
Eh bien, justement, c'est la question, puisque ce n'est pas que la question de la lecture de télévision sur la place que doit occuper le psychanalyse dans la société, puisque c'est une question qui commence à courir dans notre communauté, avec qui se cristallise, qui va se cristalliser dans la mise en place du laboratoire, mais qui était déjà là avant. Mm-hmm. Donc, puisque toi, tu as... Tu as commenté la réponse que donne Lacan à cette question du côté de cette figure du saint, bon, dont on n'a pas dit grand-chose non plus, mais toi, quelle est la réponse que toi, tu nous apporterais?
Moi, je considère qu'il existe une grande confusion dans la communauté des psychanalystes autour de cette question de la politique. On confond souvent la position.
Autour de quoi, Sidi?
Autour de la politique. Il me semble qu'on confond souvent les positions des psychanalystes en tant que citoyens et la politique de la psychanalyse. Si on se situe du côté de la politique en tant qu'elle concerne le citoyen, je crois que ce n'est pas la psychanalyse qui dicte à celui qui occupe par ailleurs une fonction de psychanalyste ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit faire, comment il faut qu'il vote, etc., etc., dans une société déterminée. En revanche, il y a une politique de la psychanalyse qui concerne les voies et moyens pour maintenir la psychanalyse dans le social et dans le monde. Ce qui me paraît autre chose. Voilà très, très sommairement la manière dont moi je pense les choses, Patrick.
La question est posée à chacun d'entre nous.
Oui.
Parce qu'à la fois, il peut y avoir les réponses institutionnelles, mais les réponses institutionnelles ne sont que, la position que de un par un, quand même, néanmoins.
Oui.
Donc, effectivement, la question, c'est comment... reste-t-on psychanalyste et non pas revenu à la condition de simple citoyen? Comment on reste psychanalyste Lacan avait l'expression de l'expansion de l'acte.
Donc, oui.
L'expansion de l'acte, justement, appliquée par la cure.
Ah. Ça se discute. Je ne sais pas si l'expansion de l'acte...
C'est pour ça qu'on est là.
Oui, oui. Non.
Personne là qui demande la parole.
Il me semble que l'extension de l'acte peut s'entendre en deux sens. Ça peut s'entendre au sens où il s'agit, pour la politique de la psychanalyse, d'une expansion de l'acte psychanalytique. Donc, la psychanalyse en extension. On peut l'entendre aussi comme ce que tu viens de suggérer, c'est-à-dire l'expansion de l'acte en dehors des discours autres que l'analytique. Je ne sais pas si la promotion de l'acte dans le discours du maître, dans le discours de l'universitaire ou dans le discours hystérique apporte quelque chose au rationnel.
Moi, je voudrais qu'on reste sur le texte.
Si c'est oui, possible. Moi aussi, je préfère.
Je voudrais...
Donc, tu as quelque chose à en dire.
Oui.
Alors, on t'écoute.
Voilà. Alors... l'inconscient qui ne pense, ni ne calcule, ni ne juge, il travaille. À quoi ? Quel est le travail ? Là, ce n'est pas défini du tout, mais évidemment, il y a les autres textes que vous avez évoqués, qui sont, ou pire, l'introduction à l'édition allemande des écrits, un autre passage de télévision, ils chiffrent la jouissance. Donc, il produit des S1 de jouissance. Donc, ça correspond tout à fait à l'écriture, à la production qu'il y a dans le discours analytique. Et pourquoi il insiste sur ni ne pense, ni ne calcule, ni ne juge ?
Mais ça, ce sont des termes freudiens, Colette. C'est dans l'interprétation des rêves déjà.
Que ce soit des termes freudiens, ne nous explique pas pourquoi Lacan répète 5-6 fois à cette époque cette expression. Et moi je crois que quand même, il ne pense ni ne calcule ni ne juge, ça veut dire qu'il n'a pas de vecteur. Penser, on va vers une conclusion, juger, on va vers aussi une autre conclusion, calculer de même, ça veut dire qu'il n'y a pas de vecteur. C'est de l'automaton. C'est un inconscient automaton. Et son travail, ça consiste en quoi ? Ça consiste à substituer un S1 pour un autre S1 et c'est équivalent en tant que 1. Donc, ça, c'est déjà comme ça que je m'explique son insistance sur ni ne pense, ni ne calcule,
oui,
ni ne juge.
Il le répète
avec grosse insistance. Alors, l'autre point, c'est l'histoire de prendre le relais du discours du maître. En quoi l'inconscient a-t-il pris le relais du discours du maître ? Marx voulait que le travailleur idéal, le prolétaire idéal, prenne le relais du discours du maître. Ça, on comprend très bien, c'est l'idée de la révolution, du pouvoir du prolétariat qui prend la place, prendre le relais, c'est prendre la même place dans un temps second. Et donc, il espérait qu'il prenne la place du maître capitaliste, tout simplement. Bon. Alors, avec cette comparaison, l'inconscient, le travailleur idéal, le même que Marx se représentait avec le prolétaire prenant le nouveau pouvoir, donc, l'inconscient a pris le relais du discours du maître. Et en quel sens ? En quel sens ? C'est vraiment une question quand même. Alors, est-ce qu'on dirait oui dans le... On ne peut pas dire que... Peut-être oui. Quelques suggestions, mais je ne sais pas où elles vont. Au fond, l'affinité, ou plutôt le lien entre l'existence de la psychanalyse et la naissance de la science, 2-3 siècles avant, puis la montée du capitalisme, encore un peu après, c'est solidaire. Lacan l'a toujours souligné. Mm-hmm. Or, la science, c'est la ruine du maître. La science, c'est la ruine du maître politique, du maître qui tient la cité, etc. Donc, science, ruine du maître, capitaliste, ruine du maître d'une certaine façon aussi, et psychanalyse aussi. Psychanalyse, d'une certaine façon, oui, puisque, au fond, si ça fonctionne, une psychanalyse, ça vous déprend du poids des signifiants maîtres de l'autre, quand même. Donc, il y a bien un fil à suivre là, mais il n'est pas vraiment limpide. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez expliquer, vous deux, prendre le relais du discours du maître, l'inconscient prenant le relais du discours du maître.
C'est de l'inconscient qu'il parle.
Tu vois bien, il dit le travailleur, c'est le travailleur idéal, le même, celui dont Marx a fait la fleur de l'économie capitaliste. Sauf que Marx s'est trompé sur le travailleur idéal. Ce n'est pas le prolétariat en marche, mais c'est l'inconscient. Et c'est ce qu'il appelle surprise dans ses affaires de discours. Et oui, alors Miller, il a mis en marche 100 mètres. Oui, c'est un savoir qui travaille 100 mètres.
100 mètres.
Travaille 100 mètres.
Mais prendre le relais du discours du maître et prendre le relais du maître, est-ce que c'est équivalent, selon toi?
Ah, j'ai un peu fait l'amalgame. Parce que le discours du maître, ça suppose quand même...
Parce que si on maintient prendre le relais du discours du maître, on peut toujours tout à fait envisager qu'il s'agit de ce qu'il appelle le discours capitaliste. Bien prendre le relais du discours du maître antique ou du maître classique. Mais parce qu'en effet, il y a cette figure du sujet qui va venir occuper la place du maître dans ce discours capitaliste que tu as alors, mille fois commenté.
Il faut argumenter.
Hein? Non, que je dis que Colette a mille fois commenté. Le discours du capitalisme le sujet en place de maître.
Dans le discours capitaliste?
Oui.
Non, pas du tout. Dans le discours capitaliste, il n'y a pas de maître. Le discours capitaliste, c'est un circuit fermé. Mmh. Il y a le S1 qui commence au S2, qui produit les objets commandent au sujet, qui produit au S... qui commande au... S1 qui commande au S2. Vous savez, c'est un circuit fermé.
Oui, c'est un circuit, mais tu crois qu'il n'y a pas de place.
Donc, il n'y a pas de maître, justement. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Les places ont sauté. C'est pour ça que ce n'est pas un discours. Vraiment, les places ont sauté. Et en fait, c'est un circuit fermé où il n'y a pas de maître. C'est une machine infernale. C'est pas du tout le discours du maître. C'est pas du tout le discours du maître, le capitalisme, en tant que tel.
Alors, non, pas le capitalisme, le discours du capitaliste.
Oui, le discours.
Il arrive parfois à Lacan de parler du discours capitaliste comme forme moderne, comme
Oui, d'ailleurs, il le fait même dans ce texte. Hein,
exactement.
Discours du capitaliste, on l'a. Mm-hmm. Oui, il faut toujours dire discours.
Cette affaire-là est compliquée.
Plusieurs personnes qui demandent la parole, on va donner...
Dans le...
Donc, il y a trois questions. Il y a trois demandes de parole. Donc, je vais ouvrir les micros aux trois personnes qui ont demandé la parole. On va commencer par trois, oui, dans l'ordre d'arrivée. Comme il reste un quart d'heure, donc je vais demander à chaque personne... de poser une question, de faire une intervention qui laisse le temps aux deux autres de poser leurs questions et les réponses. Donc Anis Tariki, Jean-Jacques Goron et Radou.
Oui, on m'entend là?
Très oui, bien. Très bien.
Bon, moi, je voulais revenir sur les discours. Effectivement, c'est une très belle définition que Lacan donne du discours analytique dans télévision, à savoir le lien social déterminé par la pratique de l'analyse. C'est le premier discours que Lacan a écrit en 68, à partir duquel il va produire les autres discours par ce quart de tour qui fait bouger les places de la structure. Hein. Donc effectivement, quand vous disiez tout à l'heure les discours ont toujours existé, non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, parce que ça n'est pas pareil. Ils existaient de fait comme l'inconscient a toujours existé, mais à partir du moment où ils sont écrits, c'est un autre statut au discours. Et tous les discours découlent du premier discours, du discours analytique. Donc il y a une continuité-discontinuité entre le discours analytique et les autres discours. Le deuxième point, c'était qu'il me semble que, c'est comme ça que je l'entends moi, parce que c'est très difficile en effet, mais que cette existence de l'inconscient au discours analytique me semble tenir au fait que le discours analytique est le seul qui mette en position d'agent l'objectita, cause du désir et cause de la division du sujet. Et je crois qu'il y a un lien entre ce statut d'existence du discours, de l'inconscient discours analytique, avec cette particularité et avec le fait que ce soit l'objet qui soit en place d'agent. Voilà, c'est tout.
Merci, Annie. Jean-Jacques Gorog.
Oui, alors bon, comme j'ai un petit peu perdu le fil là, c'était bon, c'est toujours à propos de cette histoire d'existence, donc il faut ça a été rappelé, mais l'idée que l'inconscient est second par rapport au langage, c'est évidemment une position absolument fondamentale. Et alors l'astuce ici, c'est qu'avec les discours, il faut remettre ça exactement au point avec quelque chose. Là, j'ai vu qu'il y avait finalement un certain embarras autour de la succession historique des discours jusqu'au discours analytique, n'est-ce pas ?
Les premiers discours analytiques.
Non, non, historiquement, non.
Si.
Non. Ah. Oui, non, mais bon. Écoute, le discours analytique, est donné comme le dernier.
Premier.
Non, le dernier dans l'ordre des discours. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ça que Lacan le présente. On peut pas. Bon.
Parfait.
Alors évidemment, en même temps, là où tu as raison, c'est que il y a un problème dans l'ordonnancement temporel de ces discours. Et effectivement, en effet, il faut tenir compte de ce qui constitue, de ce qui fait exister l'inconscient aussi, et qui est l'après-coup. C'est-à-dire que on a une sorte de double entrée, dans l'affaire. Évidemment, le texte de Lacan est très astucieux. C'est ça qui fait. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la difficulté. Enfin, la difficulté de lecture. C'est-à-dire que il présente les choses dans il y a l'ordre historique, disons, tout bête, hein, avec le discours du maître, le discours universitaire, le discours hystérique, et le discours. Bon, d'accord. Donc il y a un truc historique, et puis il y a effectivement des effets d'après-coup. Et donc tout ce passage est construit autour de cette Parce qu'il y a toujours cet effet chez Lacan de vouloir en même temps présenter la chose dans un ordre, et montrer la présence, l'existence de l'inconscient dans l'énoncé même qu'il est en train de faire, avec cette espèce d'après-coup. C'est pour ça que on trouve à la fois tout à fait formidable cet énoncé et qu'en effet, quand on essaye de le déplier, et on rencontre en effet quelques difficultés qui tiennent à ce timing. Voilà.
Radu ?
Oui, je crois que un texte comme celui-là demande aussi de donner certaines références. On a parlé de Marx, mais quand même, existence, tu l'as d'ailleurs montré un peu, Elisabeth, en montrant que ça date des années 50, hein.
Oui.
Ça vient de Heidegger. Et je crois que c'est très important de le dire. Bon, Heidegger dit existence avec un K en disant c'est un état hors de soi. Je ne dis pas que Lacan est heideggerien, mais enfin, c'est comme le signifiant qu'il prend de Saussure. Donc, il y a là quelque chose d'important. C'est pour dire que l'inconscient existait, enfin, disons, se manifestait avant Freud, mais que, d'une certaine manière, le fait que Freud fait comme Champollion, c'est-à-dire, il dit... L'inconscient, c'est à la surface, c'est dans le langage, enfin, c'est pas dans les profondeurs. C'est ce qui le distingue de Jung, qui reste un inconscient ancien. C'est Freud qui dit l'inconscient est une nouveauté si on le prend au terme du langage. Donc, moi, je dirais, c'est lui qui dit le premier, qui invente le discours de l'analyste en disant que l'inconscient, c'est du langage. Et ça c'est important pour enfin, se repérer par rapport à cette affaire de l'existence qui, à la fois, est un peu énigmatique, mais finalement, elle est assez simple.
Sidi et
oui?
Elisabeth, vous réagissez?
Non, je pense, Annie, la question que vous avez dit de l'objet petit a, ça joue aussi. Hein, je pense que c'est un point à souligner hein, par rapport à cette histoire. Ouais. L'objet à la place du semblant, je pense que c'est une lecture possible aussi. Et ça compte. Non, pour expliquer cette existence.
Non, moi, je suis quand même plutôt d'accord avec Jean-Jacques, hein, qui considère qu'il ne faut pas confondre l'écriture des discours, le fait que la première formalisation du discours Lacan ait donné, ça a été l'écriture du discours psychanalytique, que de penser que le premier discours, en effet, c'est celui-là. C'est dans son enseignement qu'il élabore les autres discours à partir du discours psychanalytique.
Ben oui.
Il y a une coexistence chez Lacan d'une perspective structurelle et d'une perspective historique. Quand il parle du discours du maître, ce n'est pas pour rien qu'il se réfère toujours à Aristote, à la politique grecque ou à la dialectique du maître et de l'esclave. Quand il parle du discours... Pardon ?
À Lycurgue.
Oui, également. Et il lui arrive de situer le discours universitaire à partir du Moyen Âge chrétien en Europe, comme quand il parle du discours hystérique, il parle de Descartes et de la question de la science, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en même temps que la perspective culturelle, une conception ou une manière de lire historiquement les discours. C'est pour cela que, en effet, Jean-Jacques a raison de dire que Lacan présente le discours analytique comme le dernier né des quatre discours radicaux. Il est né après, parce qu'il avait pour condition la science. simplement. Il a fallu l'émergence du discours de la science pour que la psychanalyse ait le discours de la psychanalyse, le discours analytique.
Karine ?
Oui,
j'ai
une question.
Merci. Deux questions très brèves, une pour Elisabeth Tamer sur le fait que tu as relevé que c'était une drôle d'expression quand Lacan dit, parle d'évaluation à propos de l'inconscient. Et donc, je me demandais si tu avais une idée là-dessus. La deuxième question, c'est pour Colette Solaire par rapport à l'inconscient qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge, mais qui travaille. La première conclusion, c'est qu'il s'agit d'un automaton. Et la deuxième, c'est que sans vecteur. Je me suis interrogé sur le fait, est-ce que ça évacue le désir freudien, par exemple ? Est-ce que vraiment on peut dire qu'il n'y a pas de vecteur ? Il ne dit pas « ne désire pas », peut-être qu'on peut le déduire. Et je me suis dit peut-être aussi, il y avait ce chiffrage, ce travail de l'inconscient, qu'on peut supposer être un chiffrage, pourrait être vectorisé par de la jouissance, du fantasme, etc. Donc ma question porte sur est-ce qu'on peut vraiment conclure à une absence de vecteur ici ? De vectorisation, vecteur. De vecteur.
Oui, ça m'a étonné l'utilisation de ces termes, évaluer comme savoir. Hein. Mais je les pense, c'est-à-dire parce que les déchiffrages, là, on le pèse, c'est-à-dire on pèse sa portée, on l'évalue dans une analyse. C'est-à-dire les bouts de déchiffrage ont, je pense, une portée différente pour les sujets. Ça prête à évaluation, les acquisitions, disons, de savoir dans l'analyse. C'est comme ça que je l'ai lu un peu, ces termes d'évaluation, pas au sens fort, mais... ça se pèse. C'est des trouvailles dans l'analyse ne s'équivalent pas. Je ne sais pas. Je pensais un peu comme ça. Des moments dans l'analyse, oui. C'est que l'analyse révèle n'a pas toujours le même poids pour les sujets. Oui. Mais je ne sais pas si j'ai raison. C'est des conséquences.
On l'évalue comme un savoir, mais n'oublions pas qu'un savoir n'est pas fait pour être su. Un savoir n'est pas su normalement. Et dans l'analyse, chaque fois qu'on attrape un élément de déchiffrage, on attrape un bout de savoir qui n'était pas su avant d'être déchiffré et de passer du côté du sujet. C'est ça, pour moi, on l'évalue comme un savoir en pratique. Alors, sur la question du vecteur, c'est sûr que ne pense, ni ne calcule, ni ne juge, il n'y a pas de vecteur. Mais remarquez que le savoir inconscient écrit S2 dans l'écriture du discours, ce n'est pas le tout de la structure. Si on parle du désir, du fantasme, on cherche du côté du S barré. Ce n'est pas dans le S2 de cet inconscient chiffreur de jouissance qu'on va trouver le désir. Ça ne supprime pas pour nous la référence au terme freudien du S barré avec son désir, son fantasme. C'est simplement que ça nous donne quelques... Disons que c'est un inconscient qui chiffre de la jouissance qu'on peut qualifier de jouissance sujet. C'est comme ça que je l'appelle, et c'est ce que dit Lacan. La jouissance castrée de l'un, du sujet. Donc ça n'empêche pas les autres, que le désir soit un vecteur, que le fantasme soit aussi un circuit, etc.
C'est 11h.
C'est 11h.
Merci donc, pour vous tous.
Merci à tous.
On peut ouvrir tous les micros pour le clap de fin. Voilà, donc...
On se retrouve la prochaine fois.
Bon, merci. Merci Sidi.
Oui, merci à toi Elisabeth.
Bonne soirée.
Merci
à tous. Et à la prochaine.
À la prochaine.
Qui est quand, Radu? Le prochain séminaire.
Après les vacances, je ne sais pas, après les vacances de la Toussaint, mais... Ah, Radu, il veut parler. Attends, Radu, voilà. Attends, ça va arriver. Oui, tu peux parler, Radu.
Oui, merci. Merci beaucoup, Elisabeth et Sidi. J'ai trouvé ça passionnant. Je veux juste annoncer les prochaines...
Ah,
fini.
Ça a bloqué.
Ah, ben ça, c'est...
Ça, c'est Radu.
C'est indépendant de...
Indépendant de Radu.
Non, c'est indépendant de notre côté.
Ça, ah, c'est... d'accord. Ça doit tenir à...
L'inverse, oui.
À son téléphone à lui.
C'est Radu qui s'est...
Oui, au téléphone.
Bien, bonsoir à tous.
Et donc, la prochaine réunion sera 100% sur Zoom, hein, puisque
oui, là-bas.
Mesure de couvre-feu pour les...
Donc, il faut que les gens fassent attention à leur micro, parce que franchement... Voilà. Vous n'avez pas entendu la moitié de ce que j'ai dit.
Mais là, c'est mieux.
Là, on t'entend bien.
Mieux.
Oui.
Ah bon, donc il ne faut pas que j'utilise l'autre. Quoi.
Non, mais je pense que tu dois une connexion Bluetooth. C'est un Bluetooth, ton truc.
Oui, oui, c'est un truc.
Et un petit peu, je ne sais pas. Ou alors, ouais. Tu as une fonction dans ton micro, peut-être pour…
Pour l'activer, que je n'ai pas su le faire.
Qui se coupe pour éviter le bruit de fond, je ne sais pas.
Oui, d'accord. Okay.
C'est un réglage à faire.
D'accord.
Bon. En tout cas, les deux séminaires de novembre, Champs Lacanien et École, seront intégralement par Zoom.
Oui.
Voilà.
Pour l'instant, on n'a pas le choix.
Merci beaucoup et merci Patrick. Merci. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci, au revoir.
C'est compliqué, c'est le micro.